C'est toujours ça.
Dans votre précédent film Socialisme, il y avait un énorme bateau, un paquebot de croisière, comme métaphore de l'Europe ou de nos sociétés occidentales. Et ce bateau, c'était, vous le savez, le Costa Concordia.
Oui, mais à l'époque, c'était une métaphore, c'est-à-dire une image. Pour moi-même, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour ça. Car j'ignorais rien. Je n'ai jamais eu envie d'aller en croisière sur un paquebot, de débarquer.
Je crois que tous vos spectateurs l'ont compris, que vous
Oui,
n'étiez
mais
pas un client
ensuite,
régulier des croisières.
oui, mais ensuite, 2 ans après, cette métaphore me donne l'idée d'un film en deux parties, dont l'une s'appellerait la nature et l'autre la métaphore. Et de vivre ou de faire vivre une métaphore.
C'est adieu au langage.
C'est adieu au langage. Donc c'est pour, voilà, c'est pour dire ça, ça se suit, parce que ces croisières, effectivement, on ne voyage que de nuit. La nuit, on arrive à Alexandrie, on monte dans un bus qui vous conduit à Louxor, et puis on rentre, et puis on mange dans des hamburgers, et puis non, c'est comme ça. Mais c'est un bon souvenir.
Il n'empêche, le Costa Concordia a son épave toujours vautrée près des côtes italiennes. Vous y voyez un coup du hasard, une prémonition ou un épilogue de votre film?
Le bon cinéma a toujours annoncé en avance, sous une forme métaphorique peut-être, les catastrophes, petites ou grandes, quelles qu'elles soient. C'est le cinéma qui l'a annoncé. En principe, et dans des films. Et avant son invention, c'était la musique, la grande musique. C'était Wagner, c'était. Et le cinéma a pris une certaine relève. Il l'annonçait sans succès. Les écrivains aussi, on a décrit, les écrivains ont décrit carrément dès 1917 toutes les erreurs de la révolution russe à venir. Pour la Chine, ça a pris un peu plus de temps à ce qu'on découvre toutes les fantaisies atroces de Mao Tse-tung, si vous voulez. Moi-même, j'étais enthousiaste du petit livre rouge ou comme ça. C'était plus ponctuel contre certaines gens, contre le dogmatisme de la CGT ou du Parti communiste français. Mais sinon.
Mais tout de même, Jean-Luc Godard, vous n'avez pas été renversé en apprenant que le bateau que vous aviez filmé pour votre film,
Non,
comme symbole de
non,
la
non. Bah,
décadence de nos sociétés,
on est à
avait.
Jean-Paul, on s'est dit heureusement qu'on n'y était pas.
Évidemment. Ça paraît tomber sous le sens.
Non, comme un accident de train auquel on a échappé, ou un avion qu'on n'a pas pris, alors que il y a peut-être. Mais c'était un peu dans le film. Comme des fois, à certaines dates, vous arrivent certaines choses et pas d'autres. Et on s'en aperçoit après, c'est qu'il y a tout un symbolisme en nous et trucs comme ça qui fait qu'il y a une action qui se défait, que si on n'a pas pris l'avion avant qu'il soit comme ça, il y a des raisons. C'était peut-être la mort de votre grand-mère ou ceci ou des choses qui font que, oui, ben voilà, ça s'est passé comme ça.
Dans les prochains jours, dimanche en France, l'Europe, toute l'Europe est appelée à voter. Ça vous inspire toujours autant d'ironie ou d'incompréhension, cette Europe-là?
Oui, d'ironie un peu, sûrement. Il y a des bonnes choses qui sont faites, mais j'aime mieux dire en gros ce que j'ai dit à un journaliste allemand tout à l'heure. Moi, je suis pour les frontières, mais contre les douaniers.
Pour les frontières,
Ben, vous voyez,
mais contre les douaniers. Mais s'il n'y a pas de
dans
douane.
notre film, tous ces bruits-là sont les bienvenus.
Oui, c'est vrai.
Et souvent, Fabrice les envoyait, les enlevait. Je disais, non, non, faut le remettre.
Mais comment on fait respecter les frontières s'il n'y a plus de douaniers?
Mais les frontières sont faites pour passer. Entre une route et une haie, eh ben on passe.
À quoi ça sert alors de garder les frontières?
Mais parce que il y a des gens qui sont comme ça, qui sont là, qui parlent telle langue, d'autres sont là, ils font telle chose et comme ça, et grâce aux frontières, ils peuvent communiquer. Enfin, de la vraie communication, et même des fois, communier. Le reste, après, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est du texte, ou du livre, j'aime mieux dire. On fait que du livre, on fait que du livre, que des phrases, que des trucs, et comme ça. On privilégie la logique, par exemple, par rapport à la... C'était un département avant, quand j'ai passé mon bac, il y avait trois disciplines. Qu'est-ce qu'il y avait?
L'arithmétique?
Non. Il y avait philosophie.
Ah oui, propédeutique.
Ou littérature, logique, et la philosophie, c'était logique. Mmh. Et morale. Trois disciplines, il n'y avait même pas... Le bac, la science élémentaire est venue après.
Et donc on s'est éloigné, c'est quoi votre idée, c'est que l'Europe s'est éloignée de
l'esprit logique. L'Europe, elle a commencé avec des vieux politiciens plus ou moins honnêtes, genre Monet, je dirais plus ou moins malhonnête, Robert Schuman aussi, d'autres, et ils ont décidé d'associer le charbon et l'acier. Bon, puis une fois qu'ils l'ont fait, la communauté européenne, ils ont décidé, bien plus tard, de faire une monnaie commune. C'est-à-dire, ils ont fait une monnaie commune avant de faire une culture commune. Culture commune ne veut pas dire qu'on pense tout la même chose, que les artichauts pensent pareil aux cerises et que les trucs comme ça, et qu'il faut le faire, je veux dire, y a pas, on n'est pas des Khmers rouges qui eux sont allés plutôt dans ce sens et qui ont vraiment pris au mot la phrase du passé, faisons table rase. Mais là, pas, donc ça chope forcément. Jamais vous verrez un film norvégien dans une ville du sud de la France. Jamais. Jamais. Vous ne verrez jamais à la télévision, puisqu'il y a 28 États, au moins chaque jour, 28 films de chaque État. Non, mais c'est... Peu importe qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, et que les gens les aiment pas, ou comme ça. Après, ça serait bien sûr beaucoup dogmatique. C'est juste une image pour dire ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher.
Dany, que j'ai bien connu à l'époque de 68, enfin bien moyennement, ensuite qui est devenu un sorte de sénateur du Parlement européen.
Dany Cohn-Bendit.
Oui, et ben il quitte son siège, son rôle, au moment où ça va mal. Ils sont tous comme ça.
Ça va mal parce que justement il y a une poussée d'europhobie, de nationalisme,
etc.
Il
faut mieux que ça aille mal à un moment parce que le mal vous dit quelque chose. Le mal est votre allié pour vivre bien. Si vous avez mal, on va chez le docteur. Si vous n'avez pas mal, vous y allez pas. Encore que beaucoup de gens y vont quand même.
Donc
c'est pitoyable.
Donc,
c'est gigantesque, mais vous les voyez à la télévision, en costume. Ils ne se sont jamais promenés en Europe, jamais. Quand Dostoïevski est venu à Paris, il est venu à pied, avec une carte d'étudiant. Et là, il a appris le français. Après avoir appris le français, il a lu Balzac. Un célèbre roman de Balzac. Il est retourné en Russie et il a traduit le roman de Balzac. Voilà. Je ne suis pas pour parler anglais entre nous. Les gens croient qu'il faut. Mais voilà, c'est la force de l'Amérique. L'Amérique est un pays jeune et qui n'en fait qu'à sa tête, si j'ose dire, mais qui la perd souvent, cette tête. Mais donc, ils imposent, ma foi, ça regarde si les gens veulent faire ça.
Vous ne vous sentez pas européen ?
Mais profondément.
Profondément européen ?
Mais bien avant la soi-disant fondation de l'Europe. Je me sens européen depuis que... Depuis Vercingétorix, ou Charlemagne, ou tout, j'ai appris. Si j'ai pas voyagé, j'ai lu. Mais voilà. Non, pas du tout. Et c'était l'Europe. C'était une région. Je vois pas. C'est pas une... comme ça. Que ça puisse aider un étudiant... d'aller étudier, mais comme ça, mais mon père est allé a fait ses études de médecine en France, en Allemagne et en Angleterre. Il avait 3 diplômes à l'époque où c'était pas uni ici. Voilà, il avait envie de faire ça et d'être comme ça. Il avait aucune raison. Il aurait pu faire qu'en France ou qu'en Angleterre.
Donc, tant qu'il n'y aura pas cette envie de passer les frontières et cette culture européenne, ça ne peut,
mais
ça ne peut pas marcher.
Même Poutine, il a envie de passer les frontières.
Il réussit un peu.
Oui, mais il ne se rend pas compte, c'est une phrase qu'on dit dans le film. Hein.
Oui.
Si l'Europe, la Russie ne fera jamais partie de l'Europe. Elle ne l'a jamais faite. Bien qu'à l'époque de Tolstoï, comme ça, tous les aristocrates parlaient le français. Mais c'est pas ça. Parce que s'ils sont en Europe, ça ne sera plus les Russes. Et donc, ils perdront. Ils perdront leurs caractéristiques de Russes, comme beaucoup de petits peuples perdent leurs caractéristiques, comme beaucoup de langues disparaissent. Et des trucs comme ça. Si c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Mais il n'y a pas besoin de faire semblant. Autant mettre Marine Le Pen à la présidence. Qu'elle y soit, on regarde pendant 5 ans ce qui se passe, et puis après, on la vire. Mais au moins faisons ça, plutôt que de dire.
La politique du pire ?
Non, c'est des mots, tout ça. C'est des mots. Mais non, on passe d'un mot à l'autre. On passe d'un mot à l'autre, jamais par la parole. C'est des mots entre... comme vous faites des images hein, comme ça, entre les trucs.
Et, ah, c'est vous qui avez parlé du mal tout à l'heure.
Et vous.
Autant avoir mal avec
vous. Autant avoir mal.
Donc j'ai parlé du pire.
Non, ça ne veut pas dire que je suis pour la politique du pire. C'est vous qui le dites, qu'il y avait tout un rapide discours qui vous fait dire ça. Ce qui fait qu'on finit par se disputer, par exemple. Ah. C'est pas là. Mais sinon, entre. Si vous discutez avec un bonhomme comme Finkielkraut ou Bernard-Henri Lévy, on se dispute, ou avec Lanzmann ou tout ça. Et j'ai eu ça parce que je suis quand même, tout en étant d'une autre planète, ou en cherchant à venir d'une autre planète, en n'étant pas sûr, en me disant qu'il y a quand même quelque chose, je suis quand même sur cette bonne terre ou sur cette bonne terre, donc j'ai pas de raison de comme ça. Mais souvent, ça devient... tellement, et j'ai mis beaucoup de temps à perdre cette violence de l'accrochage, à dire du mal, ou au cahier du cinéma, quand on disait du mal, le positif. Et comme... Mais il y avait quand même un film entre nous, et on pouvait juger sur pièce. Tandis que là, si on dit juste le mal, la politique, et puis qu'on enchaîne sur la politique du pire, en disant pour la politique du pire, on ne peut pas juger sur pièce.
Bien sûr.
Le cinéma, c'est un juge d'instruction. C'est fait pour ça. Ces philosophes, c'est fait pour instruire. Mais instruire au sens du juge d'instruction. Aller voir les pièces, aller voir, relever les traces du crime. C'est anthropologique aussi.
Alors, on va faire un peu de... On va faire une petite pause avec une... On va faire un peu de publicité. Pour un livre que j'ai apporté, mais que vous connaissez, je crois.
Oui, c'est Straub qui me l'a donné.
Jean-Marie Straub.
Il m'a dit, tiens, voilà un livre fou, j'ai rien compris. J'ai regardé, j'ai trouvé, bon, je n'ai bien sûr pas lu en entier, mais j'ai trouvé un travail, oui, comme on dit, un travail fou, mais remarquable.
Alors on va le décrire pour les auditeurs.
C'est une des très bonnes histoires du cinéma, même s'il n'y a aucune image ou de truc comme ça, ça en dit beaucoup.
Alors c'est un livre qui s'appelle « Passage du cinéma 4992 », comme le nombre de citations qui ont été regroupées, choisies dans ce livre par Annick Boulot.
Voilà, c'est ça. C'est un beau boulot.
C'est un beau boulot par Annick Boulot. Et c'est un drôle de bouquin tout blanc, très peu diffusé.
Mais comme l'écran, tout blanc.
Et qui procède un peu selon votre méthode, on peut dire, Jean-Luc Godard, de collage et de correspondance entre citations, d'associations d'idées.
Oui, mais j'aime mieux dire comme Philippe Solers, que j'admire en tant que respect, en tant que critique, et à qui on reprochait de faire souvent des citations, et qui disait, ce ne sont pas des citations, ce sont des preuves.
Donc il y a des preuves dans ce livre.
Il n'y a que des preuves. Et c'est une épreuve. Il n'y a que des preuves. Et c'est une épreuve de d'abord de le lire, mais ça montre toutes les épreuves qu'a subies. Et c'est très différent des histoires de cinéma habituelles, parce que ça montre ce que les gens ont dit, que ce soit un dirigeant syndical, un metteur en scène, et il y a
ou un directeur de cinéma.
Ou un directeur de cinéma. Mmh. Il y a des gens d'aujourd'hui, moi je suis aussi.
Vous y êtes souvent.
D'autres avant.
Vous y êtes beaucoup.
Je sais pas, j'ai pas.
Ici. Il y a une citation de vous d'ailleurs dès le préambule de ce livre, Passage du cinéma. Pour parler des autres, il faut avoir la modestie et l'honnêteté de parler de soi-même, avez-vous dit. En 1972, à Yvonne Babi dans Le Monde.
Ah, c'était la belle époque.
Une belle époque.
Parce qu'avec Yvonne Babi, on écrivait les critiques du film ou les comptes rendus du film ensemble.
Ah, ça c'est intéressant et original. Yvonne Babi qui a été longtemps la chef du service culture du journal, oui. Le Monde. Vous avez participé parfois à certains de ses papiers.
Avec moi, je pense pas avec d'autres, mais avec moi, c'était sa méthode. Je disais, faisons la phrase ensemble.
Sur des films que vous aviez réalisés?
Oui.
Ah oui.
C'était ce contre-lu.
Ah oui.
Il n'y avait pas encore de chien, mais c'était...
Au moins, vous ne vous sentiez pas trahi à la lecture du papier.
Ben si j'étais d'un avis, puis que je trouvais que son avis était plus intéressant, mais c'était... Même la construction grammaticale de la phrase a duré un jour ou deux. C'est un autre monde. Hein.
Le monde d'aujourd'hui, vous nous avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Godard, que vous le suiviez, vous regardiez ce qui se passait, vous lisez les journaux, regardez les actualités. Est-ce qu'il y a...
On lit deux journaux français avec Anne-Marie.
Les journaux français.
Deux seulement, Libération et Charlie Hebdo.
Est-ce que dans les actualités d'aujourd'hui, il y a des histoires où vous dites parfois ça ferait un bon film? C'est pas pour moi, mais ce serait pas un film de Godard, mais il y a une matière, il y a un matériau intéressant pour faire un film dans l'actualité.
Oui, tout est l'actualité aussi, mais on pourrait dire dans le film Socialisme, c'était précis, puisque c'était parti de l'idée de Ségolène Royal et de François Hollande à l'époque. Il y a de quoi. Puis ensuite, ça a beaucoup dévié. Mais c'était parti.
Ah bon, parce que je n'ai pas souvenir de Ségolène Royal et de François Hollande dans le film Socialisme.
Non, mais il y avait Socialisme.
Oui.
Et alors, mais je ne m'en souviens plus à l'époque, mais je sais que c'était parti. Puis tout de suite, pour moi, un titre vient comme une... En banque, on dit qu'il y a des obligations bancaires. Et ça s'appelle des titres, du reste. Où il y a même des produits qui valent rien, mais on les titrise. Et alors, grâce aux mots, ils obtiennent de la valeur, même si ça vaut rien à cause du titre. Parce que, voilà. Et donc, j'ai toujours senti, et puis mon côté, peut-être parce que mon grand-père maternel était un grand banquier autrefois chez Paribas, ou tout ça, donc il doit y avoir une influence. Chez Balzac, quand il parle de la banque, c'est toujours la banque protestante. Je suis d'une famille protestante et comme ça. Donc il y a une influence et dans la, je sais pas là, comment est-ce qu'on peut dire ça, dans la métaphore banque ou comme ça, il y a le mot dette. Avoir une dette, comme ça. Et ce que j'aime pas, c'est avoir des dettes et faire un film, c'est payer ma dette aussi. D'une certaine façon, qui doit être inconsciente ou symbolique ou tout ça. Donc le titre,
à qui vous
le titre dit je dois, j'ai un titre obligataire. Le voilà, film socialisme ou passion ou bien adieu au langage. Eh ben je dois payer ma dette.
À qui?
À ceux qui verront que j'ai payé. S'ils le voient. Parce que souvent, on me dit que je n'ai pas payé.
Oui, mais la dette, elle préexistait au film. Donc, la dette...
Non, c'est en moi, tout le monde a une dette pour ça. On examine
à l'égard
pas
de quelqu'un.
Non plus, quand on dit la dette de l'État ou des choses comme ça, ça va très bien. C'est des jeux de mots ou des falsifications bancaires ou des trucs comme ça. Mais... C'est un problème, la dette. L'ancien chroniqueur du Monde économique, qui s'appelait Jean-Paul Fabra.
Paul Fabra.
Paul Fabra.
Paul Fabra. Voilà,
a écrit un livre qui est très beau, qui s'appelle Le chômage et le diable. Dans le chômage, il y a quelque chose de dette. Et qui la paye, c'est plutôt eux. Mais en fait, tout ça, c'est des choses...
Donc si...
C'est pas simple. Le cinéma est intéressant si on sait un peu en faire. Il ne suffit pas d'avoir d'envie, il faut être capable. Je n'ai pas toujours... Je suis loin d'avoir toujours... réussi, mais à des moments, on peut tout à coup faire voir ou sentir quelque chose. Non pas prouver quelque chose, comme je l'ai fait aussi quand on faisait du cinéma dit militant. Mais déjà là, je sentais qu'il fallait que je me différencie complètement des autres cinémas qui existent toujours encore, comme il y a pas loin d'ici, à Nyon, chaque année, un festival qui s'appelle Vision du réel.
Si je résume, Jean-Luc Godard, si je vous ai bien entendu, pour rembourser une dette, vous émettez des titres qui sont des titres de films.
Qui finissent par faire un film. Voilà. Et il y a des gens qui, peut-être des banques, qui me prêtent de l'argent pour payer ma dette. Qui, eux, y voient autre chose.